Près du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est l'histoire d'une arnaque géante. Ça se passe en Hongrie. 1 million d'hectares de terres redistribués au nom de la lutte contre l'accaparement des terres. Et oui, vous avez bien entendu, cette redistribution devait bénéficier aux petits agriculteurs. C'était l'un des arguments de campagne de celui qui est devenu Premier ministre en 2010, Viktor Orban.
Le plus grand propriétaire terrien en Hongrie est aussi le propriétaire de la plus grande banque hongroise, OTP Bank. Ils détiennent une entreprise agricole, Bonafarm. Selon les données officielles, cet homme à la tête de la première banque hongroise, plus grand propriétaire terrien en Hongrie, est aussi l'un des principaux bénéficiaires des subventions européennes à l'agriculture.
9 ans plus tard, le tableau est sidérant. 80% des terres ont été distribuées à des personnalités proches du pouvoir. Hongrie, la grande braderie des terres, c'est un reportage de Cerise Maréchaux à écouter tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
C'est un lieu inspirant, emblématique de notre société en transition, à la fois ferme urbaine, lieu d'échange, atelier de réparation, mais aussi centre de conférences et d'ateliers. La recyclerie a ouvert ses portes dans le nord de Paris il y a pile 2 ans. C'est un vrai succès qui mériterait d'être dupliqué.
Je suis Stéphane Vatinel, fondateur de la recyclerie à la Porte de Clignancourt, dans le 18e arrondissement à Paris.
C'est là où nous sommes. Et alors, contrairement à l'image qu'on peut avoir de Paris, on est entouré d'un potager. Qu'est-ce qui pousse ici ?
Il y a du chou, il y a des tomates, il y a des fraises, il y a des patates. Il pousse à peu près tout ce qu'on essaye d'expérimenter, surtout dans un premier temps, parce qu'en fait, concrètement, on est sur la petite ceinture. C'est 30 km qui ceinturent Paris, fermé il y a à peu près une cinquantaine d'années. Et donc il y a cette double voie qui est au milieu et de chaque côté il y a des quais. Et ces quais avaient été abandonnés et inutilisés aussi pendant 50 ans, 60 ans. Et là maintenant il y a un travail de fond qui est en train de se faire à la demande de la ville et la SNCF pour réenchanter cette petite ceinture, ce couloir de biodiversité en faisant attention à sa faune et à sa flore endémique. C'est vraiment très très important. Donc en fait nous on est un espèce de laboratoire comme ça, de mini-fermes urbaines. Aujourd'hui, après analyse des sols, après une première production de légumes, donc on a produit du bulbe, on a produit de la feuille, on a produit du fruit, et on a fait analyser tout ça en laboratoire. Et il s'avère que nos fruits et légumes sont très bons à la consommation.
L'endroit où nous sommes, c'est ce qu'on peut appeler un tiers paysage pendant très longtemps. C'est un endroit dont personne ne se servait, donc du coup la biodiversité s'est installée. Mais vous dites aussi que la recyclerie que vous avez créée, c'est un tiers-lieu. C'est quoi un tiers-lieu ?
On en parle de plus en plus hein, des tiers-lieux aujourd'hui. Le tiers-lieu, c'est quoi ? On a le premier lieu, c'est notre domicile. On habite dans notre domicile, ça c'est notre premier lieu. Il y a le second lieu qui est censé être le lieu de travail. Et il y a le tiers-lieu. Le tiers-lieu, c'est ce lieu de choix dans lequel, puisque j'ai un moment de libre, c'est mon choix d'aller y passer du temps. C'est la première définition du tiers-lieu. Après, nous, en arrivant à la Porte de Clignancourt, pour être honnête, on est presque dans le cadre d'une commande publique. Donc il a fallu qu'on écrive un projet en prenant en considération le contexte dans lequel on était. Porte de Clignancourt, une porte extrêmement cosmopolite, où il y a les puces de Saint-Ouen qui sont juste derrière ce plus vieux marché, qui a une vocation extraordinaire et qui répond à une demande aujourd'hui qu'on trouve de plus en plus obligatoire, à savoir non pas jeter, mais bien réparer ou donner une seconde vie ou réduire les déchets. Vous savez, c'est une fameuse notion des 3 R que l'on connaît si bien. Aussi, c'est une porte où il y a une mixité des couches sociales qui est très très forte. Et donc, il y avait ce couloir de biodiversité qui est la petite ceinture. Et donc, on a écrit un projet qui devait rentrer dans ce constat de territoire qui consiste à faire un lieu autonome financièrement. Il fallait trouver une activité qui permette de générer suffisamment de financiers pour pouvoir amortir l'achat d'un bâtiment, sa rénovation et ensuite son fonctionnement. Donc c'est une activité de cantine, bistrot, restauration. Et par contre, à côté, tout un énorme projet pédagogique qui, lui, consiste à faire de l'agriculture urbaine, à accueillir les gens dans le cadre d'un atelier qu'on appelle l'atelier de René. C'est un espace atelier de réparation. Et après, il y a cette énorme programmation, atelier, rencontre, animation, autour de l'économie sociale et solidaire, autour de l'économie circulaire, autour de l'agriculture, de l'environnement et ainsi de suite, diffusé auprès des gens qui viennent à la recyclerie. Il y a à peu près 300 000 personnes qui viennent par an.
On va voir Julien ?
S'il vous plaît.
Déranger une seconde, on va dire deux secondes pour être honnête. Ouais. Vous appelez comment ?
Julien.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec votre arrosoir à la main ?
J'allais rincer le bac de compost, les épluchures qu'on a récupérées à la cuisine pour les amener au compost et donc j'allais leur ramener le bac propre.
Vous récupérez les épluchures de la cuisine pour faire du compost et enrichir les cultures ?
Oui, exactement. On essaye en tout cas. Et on a aussi les bacs des adhérents et des particuliers en fait, qui nous ramènent leurs propres déchets de cuisine. On composte aussi, donc on a 200 seaux en circulation et donc les gens peuvent nous ramener aussi leurs déchets. En échange, ils ont droit à un café filtré ou un sirop gratuit.
Et vous produisez quelle quantité de compost par an ?
Là, on n'a pas beaucoup de recul parce que ça fait que depuis 2014 qu'on est en place, ça fait un an qu'on essaye d'avoir ce compost. Donc là, c'est un peu compliqué à dire. On peut vous dire les quantités. On a à peu près 10 kilos qui viennent des particuliers, 10 kilos de la cuisine chaque jour. Donc ça fait au moins 20 à 30 kilos chaque jour de déchets à composter. Donc c'est assez conséquent sur une année. En tout cas, ça finit par faire presque une tonne, plus d'une tonne même.
Oui, c'est impressionnant. Et ça vous suffit ou c'est trop pour votre potager ?
On n'en a jamais assez en tout cas, puisque l'amélioration du sol est très importante pour ce potager. Et puis c'est la clé de la réussite de nos légumes.
Bon, je vous laisse travailler alors. Merci.
Merci à vous. Bonne journée.
Oui, il y a un monsieur qui chante. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en train de nettoyer là, parce qu'il y a ouais. Des déchets par terre, à l'endroit ouais. Des tables.
Ouais, c'est ça, c'est moi qui nettoie tout, les recycleries.
Il y a beaucoup de déchets ?
Ouais, un petit peu, surtout vendredi, samedi, dimanche, ça c'est trop. Mais à part de ça, c'est impeccable.
C'est bien de travailler ici ?
Ouais, moi vraiment, ça me fait plaisir de me poser ici. Parce qu'ils aiment trop. Parce qu'ils les ont. Ils me respectent comme je veux. Personne. Il m'a engueulé ici, quoi. Je fais bien mon boulot, je suis content.
Voilà. Parce qu'avant, c'était moins sympa ?
Avant, oui, avant que je vienne ici, j'étais travaillé dans une usine. Vraiment là-bas, c'est un peu galère avec des chefs d'équipe, avec des patrons. Nous, on bosse juste pour faire des primes pour eux. Après, j'ai des mal de là-bas. Voilà, j'ai remplacé quelqu'un ici pendant 4 mois. Finalement, il m'a fait un CD. Ça me fait plaisir, franchement.
Vous avez toujours vécu à Paris ?
Moi, je vais venir ici en France. Ça fait 4 ans que je suis là. J'étais en Espagne, je fais 11 ans là-bas. J'étais au Mauritanie, j'ai quitté au Mauritanie. J'ai venu à Barcelone en 2000. Voilà. Mais là, mon Ibrahim, ici, c'est... Mucho felicidad, mucho gracias.
Mucho gracias, Ibrahim Cissé. La brouette avec les seaux pour le compost qui part. Donc là, on va aller plutôt à l'intérieur. Hein. On va quitter l'extérieur.
C'est très très intéressant.
Donc là, on est avec plein de tables en bois, oui. Des bancs.
Alors, on est dans un cadre qui est juste très étonnant. Hein. On est...
Très bucolique et très urbain à la fois.
Voilà. On est vraiment entre les deux. Il y a des immeubles qui sont à gauche. Il y a la voie de chemin de fer désaffectée à nos pieds. Il y a des arbres blindés de feuilles. Il y a de plus en plus de fleurs qui commencent à arriver. Tout ça, c'est très vert.
Un peu de graffe, peu de graffiti.
Oui, graffe, exact. Oui. Et donc, on est entre le jardin potager, pas loin de ces petits estancos qu'on a construits, parce qu'on a pas mal de mini-marchés où tous ces gens qui individuellement ou sous forme d'association produisent avec leurs mains des choses qui ne sont pas manufacturées de façon industrielle, mais vraiment faites main. Et ça, ce sont des valeurs auxquelles nous, on croit profondément. Hein. C'est vraiment cette superposition d'activités qui fait qu'à un moment, tout prend sens.
Allez, on monte l'escalier, on rentre à l'intérieur, on va aller voir l'atelier de René.
Alors là, on a quand même vachement nos copines. Hein.
Ah oui, là, il y a les poules.
Elles, on y tient.
Je crois qu'une poule, ça mange 150 kg d'épluchures par an.
C'est exactement ça. Et on en a 20. Donc, ça veut dire que ça fait déjà 3 tonnes d'épluchures par an. ces déchets organiques, c'est la chose la plus difficile à traiter par nos collecteurs de déchets, finalement, mangent 80% de nos déchets organiques. Donc, elles ont une vertu incroyable. Et vous savez, tous ces programmes qui consistent aujourd'hui dans les différentes municipalités de commencer à offrir une poule aux gens qui ont des maisons, qui ont des appartements, en leur disant, voilà, on vous offre une poule, comme ça, cette poule va manger des déchets organiques.
Ah, je ne savais pas que ça existait.
Eh bien, ça se met de plus en plus en place. Et donc, on a 20 poules, un coq, qui nous font à peu près 7000 œufs par an. Et après, on a le jardin aromatique. Tout cet espace, c'est le jardin aromatique, où on produit essentiellement des plantes aromatiques pour la cuisine, mais aussi pour les adhérents qui viennent, qui peuvent les récupérer.
Ah, ça y est, il y a des gens qui sont en train de déjeuner.
Pour info aussi, une chose dont on est très 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 content, c'est que on produit 18 000 litres de nos propres boissons non alcoolisées. Donc c'est jus de bissap, thé glacé, jus de baobab, jus de gingembre. Et en fait, on est très fiers de ça dans le sens où c'est donc de l'eau du robinet avec lequel on fait des macérations qui sont ensuite mises en bouteille. Alors c'est marrant parce qu'au départ, les gens nous demandaient très souvent, vous auriez un Orangina, vous auriez un coca autre. Et finalement, maintenant, ces mêmes gens viennent ici en disant à leurs amis, ah ben non, mais ici, c'est que des jus qu'ils font eux-mêmes. Et donc, on se rend compte que, contrairement à ce qu'on croit, le marketing poussé à l'extrême qui fait que nos enfants veulent absolument aller dans certaines enseignes pour manger ou boire que certaines boissons ou machin, très vite, il y a un phénomène de rejet. Et en fait, finalement, en venant chez nous et en ayant accès à des produits qui ne sont pas marketés, on sent qu'il y a une adhésion encore plus forte que s'il y avait ces produits très connus. On a ce qu'on appelle le centre de tri.
Ah oui, alors ici, nous valorisons nos déchets. Donc c'est une fois que les gens ont déjeuné, ils doivent trier leurs déchets.
Exactement. Et une fois qu'ils ont fini de manger, ils vont à l'endroit où il y a la plonge et il y a 5 bacs différents. Il y en a un pour le compost où vous pouvez mettre les serviettes biodégradables, des choses comme ça. Il y a un bac pour les poules où donc là on met tout ce qui est déchets organiques, sauf ce qui est viande, œufs. Il y a un bac à couvert, il y a un bac à tout ce qui ne va pas dans les 3 autres bacs. Et puis après, vous avez là où ils mettent les assiettes et ainsi de suite. Et en fait, pour nous, c'est une valeur extrêmement pédagogique. C'est-à-dire que là, on est tous à dire que, bien sûr, c'est évident, il faut qu'on traite les déchets. Et on dit même que chez soi, on a nos différents bacs pour trier. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas intégré ce geste réellement dans leur quotidien. Et on se rend compte que les gens sont très attentifs, finalement, à ce geste, après l'avoir compris.
Bonjour Martin.
On s'est aperçu tout à l'heure, en fait.
Oui, c'est ça, vous étiez en réunion. Mmh.
Martin, ça va ?
Ça va Romain. Bien, ouais, merci. Bien.
Bonjour.
Bonjour Romain.
Enchanté.
Romain. On s'embrasse ici alors.
Ouais.
Moi j'embrasse aussi.
Et Martin sont ceux qui gèrent le lieu.
Il y a une activité intense ici, culturelle, pratique. Il y a combien d'ateliers de conférences par an ?
En général, on a plus de 3 ateliers par jour. On arrive facilement à avoir 400 ateliers par an. Et après, il y a beaucoup de conférences, de débats, de rencontres autour de l'écologie. Et là, on en a à peu près 80 par an.
Quels sont les grands thèmes ?
Énergie, transport, finance, tous les grands thèmes d'enjeux écologiques.
Et puis il y a des ateliers pratiques aussi.
Après il y a du pratico-pratique, comment faire ses produits de beauté soi-même, comment construire un nichoir à oiseaux, comment parler avec des réfugiés, c'est très très divers. Hein.
Et en ce moment il y a, depuis le mois de mars je crois, un cycle sur l'Europe.
Alors oui, depuis le début de l'année, il y a un pays par mois européen qui est mis à l'honneur. Et on essaie de voir quelles sont ces bonnes pratiques pour nous les dupliquer ou en tout cas en parler. Ça peut être par exemple la place de la voiture en ville pour les Pays-Bas, la monnaie locale en Angleterre. Et toutes ces choses-là, on en parle, on invite des spécialistes. Une fois qu'on a fait la monnaie locale anglaise, bah nous on a mis une monnaie locale ici qui est la pêche de Montreuil. Sur le vélo, bah on a tout un tas d'activités vélo aussi. Enfin voilà, on essaye de se dire qu'est-ce que font nos voisins et faisons-le.
Parce que c'est un vrai mouvement, finalement, cette envie d'autre chose, que ce soit dans la consommation, dans la culture.
J'en suis persuadé. Je suis persuadé que même toutes les entreprises, et à l'intérieur de leurs équipes, et face à leurs clients, elles ont une obligation de réflexion sur ce qu'elles produisent, sur leur impact écologique. Aujourd'hui, tout le monde commence à prendre conscience. Ça ne veut pas dire que tout va bien, mais ça veut dire que quand même, depuis 10 ans, les choses ont énormément évolué.
Bon, je vous laisse travailler.
C'est pas du travail, hein, c'est bien mieux que ça.
Bon, ben bon courage.
Merci. À bientôt.
À bientôt.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous étiez devant un ordinateur, là?
Oui, alors là, j'organise les broc-déj du dimanche. Donc, tous les dimanches, à la recyclerie, on fait un broc-déj de midi à 19h. Donc, les gens s'installent et vendent leurs affaires. Après, je gère aussi les plannings de l'atelier avec les différentes réparations, les objets partagés.
Parce que les objets partagés, ah ben c'est là, il y a un panneau qui clignote, objets partagés. Alors il y a quoi actuellement en rayon?
Il y a une scie sauteuse, une ponceuse mousse, une défonceuse, il y a même une machine à barbe à papa, une yaourtière. Enfin, il y a vraiment plein de machines différentes pour votre plaisir et puis pour bricoler aussi.
Et ça coûte quelque chose d'emprunter?
L'adhésion coûte 25€ par an et vous pouvez venir quand vous voulez du lundi au dimanche de midi à 20h. Il y a un René qui est toujours là pour vous accueillir, donc soit un réparateur plutôt mobilier avec tout ce qui est bois, menuiserie, et puis l'autre réparateur qui est plutôt sur l'électricité, le petit électroménager.
Alors justement, là il y a un René qui est en train de réparer, donc on va lui poser des questions, merci.
Je vous en prie.
Bonjour.
Bonjour.
Alors on vous appelle René, on fait comment?
Alors on peut m'appeler René, oui, sinon mon prénom c'est Cyriac, mais je fais partie des René de l'atelier.
Il y a combien de René?
Alors on est deux actuellement. Les René, bah, pour la petite histoire, parce qu'on répare des objets, donc les objets renaissent. Donc voilà, nous sommes les René, et puis en même temps on a cette idée du René bricoleur dans son atelier. Voilà.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là?
En général, les matins, on fait des petits bricolages. Comme on n'est pas ouvert au public, en fait, l'atelier, on fait des bricolages pour le lieu, la recyclerie. Et ensuite, l'après-midi, là par contre, on est ouvert au public. Donc on va faire des réparations pour les gens. Vous donner des conseils de bricolage, etc.
Ça permet aux gens de récupérer leur objet réparé au lieu d'acheter quelque chose d'autre et de mettre celui-là à la poubelle.
Et exactement, et d'autant plus que souvent les objets qu'on nous amène, ils y sont quand même attachés. Donc c'est souvent soit des objets qui sont transmis génération en génération, ou des fois des choses qu'ils ont simplement trouvées dans la rue mais qu'ils ont trouvées intéressants et auxquels ils ont envie de donner une seconde vie. Soit on les répare pour eux. Et ils viennent le chercher quand c'est fini. Sinon, on peut le réparer avec les personnes. Donc du coup, ça permet aussi de partager le savoir et les techniques et l'atelier.
Bon, bah, je vous laisse travailler alors, merci.
Merci beaucoup, au revoir.
Stéphane, je crois qu'on a fait le tour. Évidemment, les activités sont multiples. On n'a pas rencontré tout le monde, mais on a une bonne idée du lieu. On peut peut-être conclure en allant voir ce qu'il y a à manger ce midi. Oh, mais les assiettes sont magnifiques.
Les assiettes sont très très belles. On est
bonjour
super
madame.
Content.
Excusez-moi, qu'est-ce que vous allez manger là? Votre plateau est superbe.
Risotto de lentilles.
Non, ça a l'air très bon et un petit dessert sympa aussi.
Oui, oui, aussi, ouais.
Vous venez souvent déjeuner ici?
C'est la première fois parce que je m'installe tout juste à Paris. Et j'ai vu le concept de la recyclerie et puis c'était tout à fait ce que j'aime et voilà quoi, donc c'est magnifique, je découvre et j'adore, voilà.
Bon ben bon appétit.
Merci beaucoup.
La plupart de nos produits sont le plus locavore possible, hein, les produits de base. On n'achète surtout pas du pré-préparé, hein, toute la nourriture est faite sur place. Et on a vraiment une carte qui change tous les jours parce que en fait elle s'adapte à faire le moins de gaspillage possible. Donc on essaye de ne pratiquement pas jeter. On retravaille les restes le lendemain. On fait beaucoup de brunch le samedi et le dimanche. Et des fois, tout n'est pas consommé. Donc ça modifie complètement la carte du lundi. Donc aujourd'hui, on est lundi.
Alors vous savez ce qu'on va faire? On va éteindre le micro. Parce que moi, à force de voir défiler ces assiettes, j'ai extrêmement faim. Mmh, et on va déjeuner.
Oui, en plus celle-là, elle fait vraiment très envie. Là, hein. Moi, j'aime bien ce côté crudité là aussi. Mais avec un grand plaisir, mangeons.
Merci pour la visite.
Merci à vous surtout. On est très heureux de vous accueillir.
Et le repas fut excellent et convivial. Merci à Stéphane Vatinel pour son hospitalité. Les coordonnées de la recyclerie sont sur la page internet de l'émission. Ce reportage a été réalisé par François Porcheron. The songbirds,
message with the music we bring. This world we live in is a beautiful thing. Now if you see your best friend drop some trash on the ground, tell me what you gonna do. Pick it up, pick it up. Now if you see your best friend drop some trash on the ground, tell me what you gonna do. Pick it up, pick it up. Every person has gotta recycle, and I know that we don't do it as much as we'd all like to, but if we all did our equal part, saving the world wouldn't be so hard. It helps to think of Earth as a piece of art, a fragile painting that's now in the making. It gives new meaning to the phrase, the world is ours for the taking. I'm waiting for it to fix itself, but it's slipping away. The ozone layer's had enough, so let's give it a break. Too much greenhouse gases and carbon monoxide needs to come to a halt, like a car at a stop sign. We got a molehill that was starting to rock climb, but I'm out when it's formed, and it's too large and it's not right. So don't buy products with CFC. You can't imagine the damages when they be empty. I'm not a psychic and I don't have ESP, but the world is coming to an end, so believe in me. And if we're gonna do it right, then we should all unify to stop harmful chemicals from flying through the sky. I'm not about to lose the fight, cause you never know the difference that you can make until you try. Now if you see your best friend drop some trash on the ground, tell me what you gonna do. Pick it up, pick it up. Now if you see your best friend drop some trash on the ground, tell me what you gonna do. Pick it up, pick it up. The songbirds humming tunes they usually sing. This world we live in is a beautiful thing, spreading a positive message with the music we bring. This world we live in is a beautiful thing. The songbirds humming tunes they usually sing. This world we live in is a beautiful thing, spreading a positive message with the music we bring. This world we live in is a beautiful thing.
C'est pas du vent.
On a des modèles qui montrent, par exemple, que des pans entiers de l'Amazonie pourraient basculer en savane dans les décennies qui viennent avec le changement climatique. En fait, ces seuils, ce qu'on appelle des points de basculement, on peut imaginer un petit empilement de pièces. On en empile toujours une de plus dessus, et puis en fait, elle commence un petit peu à être sur le côté. Et chaque pièce nouvelle qu'on va rajouter n'est pas un changement fondamental par rapport à ce qu'on avait avant. Mais au bout d'un moment, on va rajouter une seule, pas plus que d'habitude, une seule, et tout va s'effondrer.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et ça, c'est un point de basculement qui fait qu'on va arriver dans un système qui est complètement différent de celui d'avant, et on ne peut pas revenir en arrière.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Menjünk. Halló?
C'est pas du vent.
Igen, igen, szedjenek mindent, jó? Amit csak tudnak, jó? Oké.
Irriguées par le Danube et la Tissa, les terres de Hongrie sont parmi les plus fertiles d'Europe. Les limons des fleuves en Grèce, ce sol argileux, sombre et épais, idéal pour l'agriculture qui occupe les deux tiers du pays. Les terres hongroises, moins chères qu'ailleurs, attisent donc les convoitises. Surtout depuis l'entrée de la Hongrie dans l'Union européenne en 2004 et la manne des subventions agricoles qui va avec. Face aux appétits des investisseurs étrangers, le gouvernement affirme vouloir défendre les petits producteurs hongrois. Viktor Orban, l'actuel Premier ministre, en a fait un de ses principaux arguments de campagne en 2010. Mais les promesses sont loin et la réalité est tout autre, comme le démontre ce reportage de Cerise Maréchaux réalisé par François Porcheron.
Je m'appelle Eva Hatch. Je suis l'une des directrices du centre de développement rural Kishantos. Je suis ingénieure agricole et j'ai un diplôme en protection de l'environnement.
On est où là par rapport à Budapest ?
On est à 80 km au sud de Budapest. Là, c'est le centre de formation. Et maintenant, avec mon collègue Ferenc Boya, on vous emmène voir les champs qui faisaient partie de cette ferme biomodèle. On va faire un tour pour voir l'ensemble de la ferme.
Pendant 22 ans, la ferme bio et éducative Kishantos a été un projet exemplaire en Hongrie. Inspiré par le mouvement des universités populaires au Danemark et cofinancé par le gouvernement allemand. Autour de nous, 400 hectares de champs où des centaines de Hongrois, jeunes ou en réinsertion, ont appris l'agriculture durable. Mais en 2014, Kishantos a perdu toutes ses terres, jusqu'alors louées à l'État hongrois.
Vous voyez toutes nos machines plantées là. Elles nous ont coûté plus de 15 000 euros. Ça fait bientôt 3 ans qu'on ne peut plus les utiliser. Toutes ces terres appartiennent à l'État. Enfin, elles appartenaient, car depuis, l'État les a vendues. Greenpeace a organisé une grosse action contre cette vente. L'enchère avait lieu dans la ville voisine de Székesfehérvár. Les militants ont escaladé la salle d'enchère en cachette, équipés comme de vrais grimpeurs. Et avec des mégaphones, ils criaient que cette vente était illégale. Tous ces champs qui faisaient partie de Kishantos font encore l'objet d'un procès. On est allé en justice parce que tout ce qui s'est passé est illégal.
C'est un champ de quoi ?
C'est de l'orge. Ce champ a été cultivé en bio pendant 22 ans. Et il servait vraiment la communauté à travers l'enseignement, des démonstrations et de la recherche. C'est un énorme scandale qu'il nous ait été retiré sous couvert d'un appel d'offres pour renouveler le bail. Cette ferme a été divisée en 10 parcelles et on les a toutes perdues. On n'a pas gardé un centimètre carré. C'est un tel scandale. Le ministère a même annoncé que ces champs resteraient cultivés en bio, mais seulement pour un an. Enfin, quand on connaît la moindre petite chose sur l'agriculture biologique, on sait qu'un an, c'est rien, ça ne sert à rien. Ils prennent les gens pour des idiots. Un an après, ils ont répandu des pesticides et des engrais chimiques sur ces champs. Tout a été détruit. Ils ont barré l'accès aux champs avec des agents de sécurité et ils ont détruit toutes nos cultures, 407 hectares. Je n'en reviens pas. Vous voyez là, sur la droite, les nouveaux exploitants, qui sont maintenant les propriétaires, ont labouré jusqu'à la fine plate-bande de nature sauvage qui borde le champ. C'est un crime contre la nature, ça, vous voyez ?
Oui, la plate-bande le long du chemin. Ce couloir de nature sauvage et de biodiversité le long du chemin a été labouré par le nouvel exploitant, alors que c'est contre les lois agricoles et naturelles.
Ça montre à quel point ils n'ont aucun respect de la nature, aucun sens de ce qu'est une agriculture respectueuse. En plus, cette plate-bande ne fait pas partie de leur champ. Ils ont détruit la dernière parcelle de nature ici. Vous voyez la mentalité de ces personnes ? Et dire que c'était supposé être une ferme bio, c'est incroyable le mal qu'ils ont fait.
Hello. Igen, igen, szedjenek mindent, jó? Amit csak tudnak, jó? Szia! Oké, jó. We lost our income. We lost 15 jobs.
On a perdu notre activité, on a perdu 15 emplois. C'est une tragédie pour nous, mais on essaie de continuer, de s'en sortir. L'histoire de Kishantos est vraiment absurde. Quel dirigeant responsable voudrait tuer un projet entièrement dédié à la communauté ? Regardez autour de vous. Cette région est l'une des meilleures zones agricoles du pays. Il faut savoir que la Hongrie est vraiment un pays d'agriculture. Environ 60% du pays sont des terres arables. Et les conditions pour cultiver sont excellentes. Le sol est de très bonne qualité, on a beaucoup d'ensoleillement. C'est un climat presque idéal pour l'agriculture. À moins d'être aveugle, on peut voir que la terre en Hongrie vaut bien plus que ce qu'elle coûte réellement. Et tous les scandales liés aux terres étatiques, pas seulement le cas de Kishantos, s'inscrivent dans une immense spéculation. C'est de l'accaparement des terres, tout ce qu'il y a de plus classique.
Pour Eva Hatch, c'est le gouvernement qui est responsable de la perte des terres de Kishantos en 2014. Ironiquement, la lutte contre l'accaparement des terres est depuis 2010 une priorité officielle du Premier ministre conservateur Viktor Orban. Mais c'était d'abord dirigé contre les appétits des investisseurs étrangers. Comme explique Robert Friedrich, membre de l'ONG Les Amis de la Terre, assis dans l'herbe d'un parc de Budapest.
L'un des principaux moteurs de l'accaparement des terres en Hongrie, c'était le prix de la terre, qui était entre 10 et 15 fois moins cher que dans certains pays d'Europe de l'Ouest. C'est pour ça que les investisseurs étrangers sont venus ici.
Encore aujourd'hui ?
Oui, le prix de la terre ici a un peu augmenté, mais la terre en Europe de l'Ouest est encore nettement plus chère. Les agriculteurs des nouveaux pays membres ne sont pas à égalité avec ceux des autres pays. Donc oui, c'est toujours un moteur pour l'accaparement des terres en Europe. Après la chute du rideau de fer, les terres qui appartenaient à l'État et aux coopératives ont été en quelque sorte reprivatisées. En fait, il y a eu une transition de quelques années. Il a été possible pour des entreprises et des investisseurs étrangers d'acheter de la terre en Hongrie. Mais rapidement, le gouvernement hongrois a réalisé le danger pour la souveraineté alimentaire du pays. Donc, en 1994, une loi a interdit aux étrangers d'acheter des terres en Hongrie. Cependant, à l'époque, l'entrée de la Hongrie dans l'Union européenne était déjà dans les tuyaux. Donc, des investisseurs étrangers ont réalisé qu'il y avait seulement quelques années à attendre avant que l'achat de terres hongroises soit à nouveau légal dans le cadre du marché commun. En attendant, ils ont trouvé des astuces pour contourner l'interdiction. Ils ont acheté des parcelles hongroises en signant un contrat, sans mentionner la date de transaction. L'idée était de garder ce contrat au chaud dans leur poche, d'où le surnom de contrat de poche, jusqu'à ce que la loi de 1994 interdisant l'achat de terres par des étrangers soit levée au nom du marché commun. Et donc, à partir de là, ces parcelles leur appartiendraient de plein droit. Pourquoi l'intérêt de ces contrats de poche ? Parce qu'ainsi, en tant qu'exploitants agricoles, ils obtenaient aussi l'accès aux subventions européennes à l'agriculture.
Selon un rapport de recherche de la Chambre d'agriculture du comté Győr-Moson-Sopron, environ 1 million d'hectares de terres ont été obtenus de cette manière par des personnes étrangères ou des sociétés étrangères à travers ce qu'on appelle des contrats de poche sur les 20 dernières années.
Et ils ont aussi estimé que ces prédateurs de terre ont reçu entre 1,2 et 1,8 million d'euros d'aide agricole issue de l'État et de l'Union européenne depuis que la Hongrie est membre de l'Union européenne.
Et qui est à l'origine de ces contrats de poche qui trouvaient différents moyens techniques pour contourner la loi empêchant les étrangers d'accéder à la terre ? C'était des personnes, des sociétés, des multinationales, plutôt venues de quel pays ?
D'après nos informations, ce sont essentiellement des particuliers, plus riches que la plupart des fermiers hongrois. Beaucoup sont des agriculteurs autrichiens, mais certains viennent aussi d'Italie, des Pays-Bas, de la Belgique, d'autres pays européens encore. Ce sont des hommes d'affaires. L'un des cas les plus connus est ce membre de la célèbre famille Benetton, qui a acquis de la terre dans le sud-ouest de la Hongrie.
Et on the other hand, in the last
Et d'un autre côté, depuis 4-5 ans, on observe aussi une nouvelle vague d'accaparement des terres en Hongrie. Et elle vient de l'intérieur, appuyée par le gouvernement. C'est une tendance assez nouvelle, même s'il y a déjà eu des cas dans le passé.
En 2010, le Fidesz, parti conservateur, fait campagne en promettant de redistribuer les terres de l'État en faveur des petits cultivateurs et d'une agriculture familiale raisonnée et durable. Pour cela, il s'appuie sur la crédibilité et la popularité de l'agronome Joseph Andian. Il faut remonter à 2010, quand le parti Fidesz a gagné les élections. Notre ami et fervent soutien, le professeur Joseph Andian, a été nommé secrétaire d'État au sein du nouveau gouvernement. C'est lui qui a établi la stratégie de l'État pour le développement rural, vraiment basée sur des principes d'agriculture durable.
Vous savez, le professeur Andian est le fondateur de l'Institut universitaire pour le développement rural durable. Donc c'était vraiment positif. D'ailleurs, d'autres centres de formation comme Kishantos devaient être créés ailleurs en Hongrie.
Donc à l'époque, c'était un signe plutôt positif pour le projet de politique agricole de la Hongrie.
On était plein d'espoir pour la Hongrie. Et puis soudain, en janvier 2012, le professeur Andian a démissionné. Au début, il est resté silencieux. Mais plus tard, il a rédigé une lettre qui a fuité dans le grand public. Il y parlait ouvertement de ces oligarques qui contrôlaient les décisions du gouvernement. Et la véritable raison derrière la démission du professeur Andian du gouvernement, c'est que, comme témoin des préparatifs de la redistribution des terres de l'État, il a vu qu'elles n'allaient pas être attribuées à qui on les avait promis. Et il a refusé d'associer son nom à cette sale entreprise. D'autant que son nom avait apporté des voix au parti Fidesz pour son accession au pouvoir. C'est pour ça qu'il a dû partir. Les Hongrois avaient confiance en lui. Il ne pouvait pas supporter de voir un tel retournement de situation.
Le projet de défense des agriculteurs, des petits et moyens agriculteurs, c'était un argument de campagne pour Orban.
Je suis sûre à 100% que son parti a obtenu la majorité des deux tiers grâce au soutien du monde rural. D'ailleurs, au Parlement, un député m'a dit en personne, face à face, comme je vous parle, que ce projet n'avait jamais été pris au sérieux. La stratégie de développement agricole durable pensée par Andian reste au programme officiel du gouvernement. Le vocabulaire est le même. On sert le monde rural, les agriculteurs, les villages. Mais en vérité, tout va à leur encontre.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Bonjour.
Bonjour, comment?
Comment s'appelle votre chien?
Mashter.
Mashter, le maître. Il vous suit vraiment partout, de très près, il vous talonne. Le bâton de berger, comment on appelle ça en hongrois?
Kampó.
Kampó?
Igen, Juhász Kampó, birka megfogására.
Au bout, un crochet pour les bêtes. Pour attraper les jambes des moutons. Donc là, je suis au milieu du champ de Gyula, à l'est de la Hongrie, qui borde une route qui va jusqu'en Roumanie. Il y a beaucoup, beaucoup de poids lourds qui passent sur cette route.
Mezőpéter, a román határtól 10 kilométerre.
On est à Mezőpéter, on est à 10 km de la frontière roumaine. Votre terre, elle va jusqu'à derrière cette longère, ce long bâtiment?
Igen.
Jusqu'à le bâtiment de ferme, là. Et j'ai perdu le reste de la terre.
13 hectares, 500 darab anya birkának.
Donc ici, c'est le seul morceau de terre que je possède. J'ai 13 hectares, c'est suffisant pour 40 chèvres, et j'en ai 500. Rappelez-moi, vous avez perdu combien de terres?
22 hectares.
J'ai perdu 52 hectares. Ça représente combien des terres totales que vous aviez? C'est à peu près 80% des terres que j'avais. C'était 80% des terres que vous aviez?
Il ne reste plus que 13 hectares.
Donc il vous reste très peu, il vous reste une bouchée de pain.
Igen. Annyi van kint.
Moi je dis souvent de ça.
Igen.
Donc j'avais 500 moutons et j'en ai toujours 500 maintenant sur mon petit terrain de 13 hectares. Donc en plus, vos moutons, votre cheptel a beaucoup moins de nourriture. Donc oui, mes moutons ne peuvent pas se remplir le ventre correctement. Et quand avez-vous perdu ces terres? Ça fait 2 ans. C'était en
2014.
On a rempli l'appel d'offres en 2013 et en 2014, on n'avait plus le terrain. Pourquoi il fallait remplir un appel d'offres?
Le contrat
arrivait à son terme et je pense que tout ça a été fait aussi pour permettre aux amis, à ceux qui sont proches du noyau, de récupérer la terre.
Ce contrat initial, il a duré combien de temps?
5 volt, de most 10-et kötöttek.
Jusqu'à présent, c'était que des contrats de 5 ans.
C'est comme ça que ça marche en Hongrie? C'était une terre qui appartenait à l'État Et vous, en tant que berger, vous la louiez pour un contrat d'un nombre déterminé d'années ?
Donc c'est une terre de l'État et ça l'est toujours. Et moi, tous les 5 ans, donc, je renouvelais mon contrat pour pouvoir utiliser cette terre. Donc j'ai eu cette terre 21 ans.
Donc il y a eu plusieurs renouvellements qui se sont passés sans problème. La terre est restée sous votre responsabilité.
Oui, j'ai renouvelé plusieurs fois mon contrat et il n'y a jamais eu aucun problème.
Et en 2014, ça s'est passé différemment. Vous avez perdu une partie de cette terre. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ?
C'est la corruption.
Hein. En fait, ils ont trouvé un moyen de donner la terre à leurs amis. Donc c'est une personne qui n'avait pas de cheptel, qui n'avait pas de mouton, à la différence de moi. Donc c'est seulement sur le papier qu'il en avait.
Est-ce que vous connaissez son nom ?
Kish ou Albert ?
Albert Kish.
Alors Albert Kish, vous dites que lui c'est un prête-nom pour quelqu'un d'autre ?
Je pense que donc c'était un prête-nom pour quelqu'un d'autre qui s'appelle Peter Kuhn dans la région.
Et pourquoi vous avez cette intuition ?
On a été au tribunal avec cette affaire et c'est là qu'on l'a appris. Donc au tribunal, toutes les personnes qui ont mentionné son nom ont reçu des terrains.
Donc au cours de ces différents procès, plusieurs personnes qui ont reçu des terres ont évoqué un même nom qui est Peter Kuhn.
Oui.
En 2013, Zoltán Fabián a perdu la totalité des 50 hectares qu'il louait au parc national de Ortobágy. Il n'a pu garder qu'un quart de ses 800 bêtes, rassemblées sur les 3 hectares de ferme dont il est propriétaire. Selon lui, la personne qui a remporté la terre est une femme qui travaille dans la manucure, vit en Angleterre et n'a pas de troupeau personnel.
3,5 hectares de tanya terült az enyém saját.
J'ai 3 hectares et demi de terrain qui m'appartiennent, avec la ferme.
Rendszerváltáskor vásároltam.
J'ai acheté cette ferme au moment du changement de régime, après la chute du communisme.
Mikor a TSZ összeomlott, akkor vásároltam meg.
J'ai tout fait ici, j'ai fait l'électricité, j'ai fait les conduits d'eau, j'ai construit de quoi stocker mon foin, j'ai tout investi dans cette ferme.
Mértékben hozzáálltam a felszámoláshoz. Adom elfele őket.
Moi, je me rapproche de la banqueroute, là, je suis prêt à tout vendre.
Csak senki nem veszi meg legelő nélkül.
Seulement personne ne voudra jamais acheter une ferme qui n'a pas de terrain pour faire paître les bêtes.
Az a felállás van, így mondom, történt.
Donc la conclusion de tout ça, c'est que dans un rayon de 3 km, donc moi, Gyula et d'autres personnes, on avait en tout 3300 têtes de bétail et aujourd'hui, il y a 2200 têtes qui n'ont plus de terrain pour paître.
C'est
difficile de savoir combien de personnes ont été touchées. Moi, ce que je sais, c'est qu'au niveau local ici, il y a 50-60 familles qui ont quasiment tout perdu. Donc, moi, je pense que la moitié des familles ici ont été touchées.
Rencontré à Budapest, Martin Bitay, le secrétaire d'État aux terres publiques, n'est pas vraiment sensible à la situation de ses bergers. Il estime qu'ils auraient dû anticiper la fin de l'appel d'offres pour penser à une alternative. Il assure que l'État a choisi de réserver 70 000 hectares pour des jeunes agriculteurs. Et il précise que si ces bergers veulent acheter de la terre, ils peuvent emprunter à 2% de taux d'intérêt auprès de la banque étatique. Car depuis 2015, les terres de l'État sont désormais mises en vente dans un vaste mouvement de privatisation. Selon Martin Bitay, la vente aux enchères des terres de l'État a déjà profité à 10 500 Hongrois.
Igen, itt van.
Jó napot kívánok.
Jó napot.
Parancsoljanak. Kajászon vagyunk.
Ici, on se trouve à Kayasso, c'est notre propriété familiale. Moi, mon mari et mon fils qui sommes à la tête de nos activités agricoles. Je m'appelle Böcsödi Zsuzsa, je porte le nom de mon mari.
Le deuxième vainqueur de l'appel d'offres s'appelle Lorinz Mészáros, l'un des hommes les plus riches et les plus influents de Hongrie. Ami d'enfance de Viktor Orban, il est maire du village de Felcsút, dont vient le Premier ministre. Selon plusieurs enquêtes, lui et sa famille détiennent plus de 1300 hectares de terre dans la région.
En fait, cet homme est partout. Quand il y a des appels d'offres publics, quand il y a des constructions, son nom est partout et c'est toujours lui qui se cache derrière ou qui est directement gagnant de ce genre d'entreprise.
Donc pas seulement dans l'agriculture, mais dans d'autres activités.
Oui,
il est vraiment partout. Il y a d'autres exemples à Felcsút quand un restaurant tombe en faillite. Qu'est-ce qu'il achète? C'est Lorinz Mészáros. Quand un terrain est à vendre ou une activité agricole est aussi en faillite, c'est lui qui le rachète, donc il est vraiment partout.
Et il est aussi sur certaines des terres qui étaient dans le cadre de l'appel d'offres fin 2012. Quelle terre il a eu exactement?
Mészáros aurait récupéré
150-160 hectares.
Igen, tehát ez így most lehet, hogy kevésnek tűnik. Csak az
a peu, mais en fait, il faut avoir en tête qu'il a récupéré ce terrain à Kayasso, mais de l'autre côté de la route, dans le village voisin de Val, il a récupéré plus de 500 hectares. Donc si on fait le calcul, ça fait à peu près 650 ou plus d'hectares.
Comment avez-vous eu cette information?
On a appris
ça au moment de l'annonce des résultats, c'était sur la page internet de la NFA, ce que c'était un peu caché, hein. Il fallait quand même bien chercher pour le trouver, et à vrai dire, c'est le professeur Yo Jafandian qui a beaucoup travaillé dessus et donc qui a fait ressortir cette information dans le cadre d'une documentation qu'il a mise au point, écrit.
Selon le professeur Andian, 80% des terres distribuées l'ont été à des membres du parti au pouvoir, le Fidesz, ou à des proches. En octobre 2014, András Váradi, un éleveur qui avait perdu des terres au profit de Lorinz Mészáros, puis s'était présenté contre lui au poste de maire, est mort renversé par une voiture dans des conditions encore non élucidées. C'était la veille de l'élection municipale. Aussi influent soit-il, Lorinz Mészáros n'est pas le premier exploitant terrien en Hongrie. Robert Fidrich, de l'ONG Les Amis de la Terre.
Le plus grand propriétaire terrien en Hongrie est aussi le propriétaire de la plus grande banque hongroise, OTP Bank. Ils détiennent une entreprise agricole, Bonafarm. Selon les données officielles, cet homme à la tête de la première banque hongroise, plus grand propriétaire terrien en Hongrie, est aussi l'un des principaux bénéficiaires des subventions européennes à l'agriculture.
Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous pour votre fidélité. Il y a une vie après l'émission. Vous pouvez retrouver nos invités sur la page Facebook de l'émission et interagir avec nous. Donc n'hésitez pas, nous serons ravis de vous lire. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.